Bou estime que c'est un épisode choquant, il demande une enquête. Marion Cazanove, c'est à vous.
Et c'était le journal
de... À
tout à l'heure, Vincent Dublange, il est 7h43, à Paris 5h43 en temps universel. On passe au sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Marion.
Le football des jeunes est début parfait pour le Maroc dans sa CAN U17.
Les Lionceaux de l'Atlas vainqueurs 5-0 du match d'ouverture face à l'Ouganda. Des Marocains qui n'ont mis que 3 petites minutes pour ouvrir le score grâce à Ilyes Belmokhtar avant d'enchaîner ce lundi suite de cette Coupe d'Afrique U17 avec 3 rencontres. Dans le groupe du Maroc, la Tanzanie et la Zambie s'affrontent à partir de 14h temps universel. Puis à 17h TU, le Burkina Faso défie le Cameroun. Des Camerounais qui, il y a 2 ans, avaient été sortis par les étalons, futurs 3e du tournoi. Des Lionceaux qui veulent prendre leur revanche, à l'image de leur capitaine Abou Junior Lopez, qui était déjà là en 2023.
Moi, d'abord, j'ai eu une expérience. J'ai eu à participer et c'est ce Burkina qui m'a retiré de la compétition. Comme on dit souvent, les compétitions se suivent, mais ça ne se ressemble pas. C'est au stade qu'on va jouer. C'est au stade qu'on va prouver qu'on peut gagner. Et moi, j'ai confiance en mon équipe. Parce que c'est grâce à leur talent et grâce à leur façon de jouer que nous nous sommes retrouvés ici en Coupe d'Afrique. Nous d'abord, particulièrement, on ne se prend pas la tête. Dans notre équipe, c'est l'humilité. Nous, on respecte l'adversaire. Lorsqu'on a match, on entre au stade, on respecte les consignes des entraîneurs et chacun essaie de s'appliquer.
Cameroun-Burkina Faso, 17h temps universel, dernier match de la journée à 20h TU entre l'Afrique du Sud et l'Égypte.
En RDC, un international est au cœur d'une polémique.
Les photos représentant Galayel Moukaou sous le maillot congolais ont disparu de son compte Instagram. Au pays, certains l'accusent de les avoir lui-même supprimées par frustration après être resté sur le banc lors des 2 derniers matchs des Léopards. Accusation démentie par le joueur Pascal Mangala.
Non, Ngalael Moukaou n'a pas claqué la porte de la sélection de RDC. Le milieu de terrain de 20 ans l'a affirmé en précisant qu'il n'avait pas supprimé sur Instagram ses photos en maillot des Léopards, mais qu'il les avait simplement archivées. Le Lillois reconnaissant malgré tout sa frustration de ne pas avoir été aligné lors du match face à la Mauritanie. Une attitude qui interpelle l'ancien journaliste sportif Patrick Kassondé.
Parce que c'est la première fois qu'il réagit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est certainement aussi ce qu'il s'était dit avec l'entraîneur au départ, quand il l'appelait pour jouer pour le compte de la RDC.
Frustration oui, mais de la patience, c'est ça que lui recommande l'ex-international congolais Guiloussa Dissou.
Et qu'on voit beaucoup de talents, et puis il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment pour le moment en forme. Et puis il faut être toujours patient, il y aura toujours votre tour pour jouer dans l'équipe nationale.
Même approche pour Deo Kamangou, un supporter des Léopards qui voit en Galael Moukaou une légende du futur.
Il a encore de belles années devant lui. Il va faire de bonnes choses pour la sélection, mais il doit être patient. Il doit comprendre que quand tu reviens dans le pays jouer, c'est l'amour qui doit te porter.
Si beaucoup reprochent à Moukaou de s'être emporté, d'autres disent comprendre parfaitement sa frustration. Avançant même que les milieux de terrain alignés par Sébastien Desabre n'avaient guère brillé malgré les 2 victoires décrochées. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
Galayel Moukaou compte 2 sélections avec la RDC et il était titulaire hier soir lors de la victoire du LOSC 1-0 sur le RC Lens en clôture de la 27e journée de Ligue 1.
Et vous revenez dans un peu plus d'une demi-heure, Antoine Grenier, pour un nouveau point sur les sports. Merci beaucoup.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanove.
7h47 à Paris, à la une de l'actualité, les secours s'activent en Birmanie et en Thaïlande 3 jours après le séisme qui a fait plus de 1700 morts, mais les chances de retrouver des survivants s'amenuisent d'heure en heure. En Turquie, l'opposition maintient la pression sur le pouvoir après les manifestations monstres de samedi pour réclamer la libération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. En Israël, le Premier ministre nomme un nouveau chef du Shin Bet, la sécurité intérieure, Eli Sharvit, ancien commandant de marine, pour remplacer Ronan Bar, limogé il y a quelques semaines, limogeage suspendu d'ailleurs par la Cour suprême. Le Niger se retire de la force mixte anti-djihadiste qui opérait autour du lac Tchad. Niamey veut redéployer ses troupes et dit vouloir renforcer la sécurité des sites pétroliers menacés par les groupes armés. En France, la chef du Rassemblement national, parti d'extrême droite, sera fixée sur son sort ce matin avec le verdict de la justice dans le procès des assistants parlementaires européens. Les procureurs avaient requis 5 ans, notamment 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Si le tribunal suit ses réquisitions à la lettre, elle ne pourra a priori pas se présenter à la prochaine présidentielle. En RDC, les consultations du président Tshisekedi reprennent aujourd'hui en vue de la formation d'un gouvernement national et qui, pour Kinshasa, permettrait de faire face à l'agression du pays par le Rwanda qui soutient les rebelles du M23, rebelles qui contrôlent une partie de l'Est et où les affrontements, il y a quelques semaines, ont été particulièrement violents à Goma, dans le Nord Kivu. Si aujourd'hui la situation s'est stabilisée, les humanitaires ont encore beaucoup à faire. C'est ce qu'explique Myriam Favier, chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge à Goma. Elle est notre invitée Afrique et répond à Esdras Nikoumana.
Myriam Favier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Goma, une ville qui est passée sous contrôle de l'AFC M23 depuis fin janvier. Est-ce que la situation humanitaire qui y prévaut aujourd'hui est toujours aussi alarmante que lors de la prise de cette ville ?
Fin janvier, à Goma et aux alentours, il y a eu une escalade de la violence, y compris en zone urbaine, avec une utilisation d'artillerie en zone peuplée. Ça voulait dire effectivement beaucoup de blessés, pas d'électricité pendant quasiment une semaine, donc pas d'eau, car c'est directement lié. Des corps qui jonchaient au sol, tous les hôpitaux et les structures de santé en suroccupation. Donc la situation humanitaire était terrible. Je pense qu'aujourd'hui, la situation s'est stabilisée. Pour le CICR, ça veut dire que le point crucial en ce moment, c'est de répondre aux besoins essentiels des gens en réduisant les risques auxquels on fait face.
Alors, vous l'avez évoqué, ces affrontements ont fait de nombreuses victimes civiles. Combien l'avez-vous recensé au CICR ?
On a, avec la Croix-Rouge de la RDC, ramassé des corps, donné à ces corps une sépulture digne. C'était plus de 900 corps qui ont été enterrés par la Croix-Rouge et le CICR. Bien sûr, il y a d'autres victimes. Les victimes, c'est également les blessés. Nos structures de santé CICR étaient à plus de 400% de suroccupation à un moment. Il y a eu plus de 1900 patients soignés depuis le mois de janvier. C'est trois fois plus que ce qu'on a pu avoir sur les années précédentes. Par exemple, en 2022, il y avait environ 600 blessés de guerre.
Que disent donc ces chiffres par rapport à l'intensité des combats ?
On voit que ces chiffres démontrent d'affrontements qui ont été très intenses et évidemment de conséquences humanitaires importantes sur la population, sur les femmes, sur les enfants. Il y a des blessures par balles, des blessures par engins explosifs, énormément de traumas crâniens qui ont été mentionnés. Quand il s'agit d'engins explosifs, ça veut dire des amputations multiples, que ce soit sur des adultes ou des enfants dont l'éducation est certainement ensuite suspendue pour qu'ils puissent se soigner. Donc le CICR a par exemple réouvert trois maisons d'écoute dans le but de soutenir la population civile par rapport à l'utilisation d'artillerie et du trauma que les gens ont vécu en ville et dans les alentours.
Certaines ONG, les autorités congolaises, ont dénoncé l'arrestation de plus d'une centaine de blessés ou de gardes malades dans des hôpitaux à Goma. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Quelle est la situation de ces gens ? Est-ce que vous savez où ils sont ?
Ce qu'on peut dire, c'est que les autorités sont en mesure de rentrer dans les structures hospitalières. Elles doivent simplement respecter le droit international humanitaire et donc ne pas rentrer armées et respecter en fait l'avis médical du personnel, c'est-à-dire ne pas entraver le parcours de soins des patients présents dans les hôpitaux.
Après la destruction des camps de déplacés à Goma, où sont allés les centaines de milliers de déplacés qui s'y trouvaient ? Est-ce qu'ils ont encore accès à l'aide ?
Il y a effectivement beaucoup de personnes qui ont quitté les camps des déplacés qui étaient à Goma pour aller dans leur zone d'origine, leur zone de retour, que ce soit le territoire de Rutshuru ou celui du Masisi, par exemple. Et les équipes tentent de faire des évaluations afin de mieux comprendre la situation, les besoins et de pouvoir répondre à ces besoins. Pour la plupart, en fait, les gens retrouvent des maisons qu'ils doivent rénover, voire reconstruire. C'est souvent des maisons en planches, ce qui veut dire que le bois a parfois été utilisé par les gens qui étaient restés pour se chauffer. On servit de brancard dans des situations d'urgence pour évacuer les blessés. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, les affrontements ont été parfois tellement intenses que ça a détruit les lignes d'électricité, ça a détruit le réseau d'eau. Et c'est important pour nous, CICR, actuellement, de se focaliser là-dessus et d'essayer de remettre en place ces besoins essentiels-là, ce qu'on est déjà en train de faire à Sake, par exemple, qui est une ville d'environ 100 000 habitants.
Myriam Favier, merci.
Myriam Favier du Comité international de la Croix-Rouge. C'était l'invité Afrique d'Esdras Dikoumana. Et on sera à Goma dans le prochain journal. Reportage dans le Nord Kivu avec les célébrations de l'Aïd où un message de paix a été délivré au moment de la prière. La chronique des matières premières. Ce matin, on parle de l'étain, ce métal très demandé pour les soudures et donc les puces électroniques. On en retrouve dans les cellules photovoltaïques, les ordinateurs, les téléphones portables. Marie-Pierre Olfant, la demande est donc importante, mais le problème en ce moment, c'est la quantité de métal disponible sur le marché.
Et oui, les chiffres sont donnés par l'International Tin Association qui regroupe les industriels de la filière. 16% de l'approvisionnement mondial issu de l'extraction minière est aujourd'hui hors service. Les activités de deux gisements du district de Walikale au Nord Kivu ont en effet été suspendues mi-mars en raison de l'avancée des hommes armés du M23. Ces mines congolaises représentaient l'année dernière 6% de l'offre mondiale. À ces volumes qui font défaut s'ajoutent ceux qui ne sont plus exportés de Birmanie depuis août 2023. Les autorités militaires de l'Etawa, une région semi-autonome du pays, ont en effet suspendu la production minière. Or, cette zone produisait les deux tiers de l'étain extrait en Birmanie et environ 10% de l'offre mondiale avant ces restrictions.
Le blocage en Birmanie est en passe d'être levé, mais cela n'a pas suffi à faire baisser les cours.
Non, parce que rien n'est encore effectif. Il faudra attendre plusieurs mois pour que les travailleurs en majorité chinois récupèrent leur permis de travail et pour que la production minière retrouve sa pleine capacité. La réalité est donc toujours celle d'une offre restreinte et c'est ce qui explique les niveaux de prix aujourd'hui proches de 35 000 dollars la tonne. Ces prix sont aussi alimentés par le manque de stock qui augmente l'insécurité sur le marché. À la bourse des métaux de Londres, les réserves d'étain sont à leur plus bas niveau depuis un an et demi.
Et le premier pays à pâtir de ces restrictions sur l'offre et de ses prix, c'est la Chine.
Effectivement, parce que la Birmanie était le principal fournisseur de concentrés d'étain à l'industrie chinoise en 2024. La production chinoise d'étain raffiné est donc logiquement attendue en baisse cette année.
La chronique des matières premières signée Marie-Pierre Olfant.
RFI Matin.
La campagne présidentielle se poursuit au Gabon avant le scrutin du 12 avril et qui marquera la fin de la transition mise en place après le renversement d'Ali Bongo par les militaires le 30 août 2023. Leur chef, le général Brice Clotaire-Oligui Nguema, sera candidat face à sept autres postulants pour poursuivre ce qu'il appelle la restauration du pays. Pour cela, il n'hésite pas à se placer dans les pas d'Omar Bongo dans sa pratique du pouvoir, en premier lieu dans la province dont les deux hommes sont originaires, le Haut-Ogooué dans l'est du pays. Au Gabon, le général Oligui Nguema entre rupture et continuité de l'ère Bongo, un grand reportage à Franceville de François Mazet. On en écoute un extrait.
Ce jour-là, malgré la chaleur, quelques centaines de femmes en t-shirt blanc ont été rassemblées pour une marche. Imelda, infirmière en formation, Emeline, retraitée, Marie-Jeannette, Bernadette et d'autres s'arrêtent à notre micro avant d'aller récupérer leur jus.
On veut qu'il pose la candidature pour lui voter parce qu'on voit déjà ce qu'il fait. Ça lui prouve déjà qu'il a l'amour pour la population et il a pitié de la jeunesse. On n'a pas de travail, on fait les stages sur stage. On est fatigué.
Là, ici, vous l'avez vu en ville, des choses qui changent depuis un an et demi?
Oui, il change, il construit, on a vu comment il construit. Il y a les maisons, les routes, surtout dans mon village à Onga. Les merveilles qu'il fait déjà là-bas, ça m'éprouve déjà qu'il adore sa population.
Alors, c'est un peu étonnant parce que le Haut-Ogooué, c'est la région d'origine des anciens présidents. Donc, à l'extérieur, tout le monde pense qu'ici, c'était un peu le paradis avant.
Mais qu'ils viennent voir. Il n'y a pas de route, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des hôpitaux. Donc du coup, quand on commence à voir les avancées dans le pays, ben on se dit que c'est la personne propice pour nous.
Le Gabon n'est pas ce que l'on dit, parce qu'il y a trop de magouilles. Lorsqu'il s'agit des recrutements, il faut avoir un parent devant. Si tu n'as personne, tu ne peux pas travailler. Moi, personnellement, j'ai des diplômes, beaucoup de diplômes même, mais je ne travaille pas.
Mais même à Franceville, l'héritage des bongos ne fait pas l'unanimité et l'on déplore l'absence de rupture avec le passé. Professeur de lycée, proche du leader syndical Jean-Rémy Yama, dont la candidature à la présidentielle a été invalidée, Guy Roger Mangonda résume le sentiment de nombreux Gabonais.
Le pays n'a pas changé parce qu'on a comme impression que le même système bongo est revenu au galop. À chaque période électorale, on a souvent vu la même chose. Ce sont des opérations de charme. Ali Bongo, quand il est arrivé, il disait qu'il était un bâtisseur. On a compris que ce n'était pas finalement un bâtisseur. Monsieur Oligui, on a bien peur qu'il soit aussi trop tôt pris par ce système Bongo. Les gens qui ont accompagné Bongo père, ce sont les mêmes qui ont accompagné Bongo fils, ce sont les mêmes qui accompagnent Oligui. Et pourtant, Monsieur Oligui avait dit que ce sont eux qui ont fait tomber le Gabon. Il n'y a rien qui est restauré.
Au Gabon, le général Oligui Nguema entre rupture et continuité de l'ère Bongo. Un grand reportage à Franceville de François Mazet à écouter à 11h10 ou 19h40, temps universel. Pour l'heure, 7h59 TU. Dans un peu plus d'une minute, c'est le retour de l'actualité internationale sur RFI.
RFI à Franceville, 104 FM.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Centrafrique, après le rassemblement de ce dimanche à Bangui en faveur d'une nouvelle candidature de Faustin Archange Touadéra à la présidentielle, l'opposition manifestera vendredi contre un troisième mandat du chef de l'État. Que vous inspire le climat politique?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau hip-hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.